CH maquillé.
Au lieu de prendre le monde tel qu'il est avec tes deux mains, tu jongles avec les crédits, les mensonges enfouis, les carottes, tout ce qui passe entre tes deux mains. Et aujourd'hui, tu vivotes. L'espoir fait vivre, l'espoir te fait surtout subir. Jongle avec les souvenirs, paradis perdu, paradis à venir. Tu marches sur ta laisse, te croyant funambule, sans faire marcher ta tête que d'autres jongleurs manipulent.
You said you wouldn't go on Sunday. Enter the arrive, you make my day. When Friday get near, you start a pray. When Saturday come, you're like a song. We've got our life to live, and we're living with the future. What it means, talking about tomorrow. What it means, having our bubble dreams. Reality, 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 only the strong survive. Just the same. Tomorrow won't bring so much good, just the same.
Les demain, chaque jour, sont plus exigeants. Alors tu jongles avec tes torches et tu flambes le présent. Lance toujours plus haut, à chaque jour suffit son thème. Toujours s'en remettre à tes deux mains pour qu'ils te tiennent. Mais les demain deviennent fébriles, tous les rêves en un se défilent. Les demain disparaîtront, les bras t'en tomberont jusqu'au nombril. Fini les jongles, la terre promise noira dans tes rides. Et tes yeux enfin lucides ne verront que le vide.
Sur le DAB+.
Sur le DAB+.
Oh,
the devil, cast them out for something level. Oh, you know your comfort, see it's wasting you away. When you say you're too young, the chance are too old, so chance, and now you're too young, the chance are too old, the chance. I wanna love you, but I never had the time.
Il est 9h ici à Paris, 7h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Le journal international avec vous, Julien Coquelrem.
Et à la une, qui pour soulever la coupe aux grandes oreilles ce soir, un grand moment de football, la finale de la Ligue des Champions et le choc PSG-Arsenal. Le tenant du titre face aux Gunners, champion d'Angleterre, bien déterminé à continuer sur leur lancée. On appelle Cédric de Oliveira à Budapest dans quelques instants. À la une également, la Colombie et le premier tour de l'élection présidentielle demain. Le bilan économique du premier président de gauche du pays. La politique sociale de Gustavo Petro va peser dans la balance. Dans ce journal aussi, la décision de Donald Trump qui se fait toujours attendre. Le président américain n'a pas encore signé le cadre d'accord entre l'Iran et les États-Unis. Et puis un ex-chef de la junte devenu président et qui tente de sortir de son isolement international. Le chef de l'État birman Min Aung Hlaing entame une visite en Inde aujourd'hui. Mais d'abord, c'est une voix et une conscience qui s'est éteinte hier en France.
Dans le fond, ce qui m'a toujours intéressé, c'est l'humain. C'est pas seulement la question qu'est-ce que c'est qu'être humain, mais c'est le destin de l'espèce humaine qui, aujourd'hui du reste, devient la préoccupation centrale de ma personne.
Il avait traversé l'histoire du haut de ses 104 ans. Edgar Morin est mort hier.
Sociologue et philosophe français marqué à gauche, ancien résistant, penseur du temps présent et du futur, toujours actif et écouté dans le débat intellectuel. Son œuvre pléthorique et engagée lui a valu une notoriété bien au-delà des frontières de la France. Son portrait signé Isabelle Chenu.
Ce témoin du siècle humaniste centenaire et ancien résistant avait jusqu'à la fin de sa vie appelé à lutter contre les barbaries et la haine. Le monde actuel, aussi incertain soit-il, lui semblait toujours stimulant à penser. Edgar Morin, sociologue et philosophe, avait à la fin des années 70 élaboré le concept de la pensée complexe, une façon de relier les différentes disciplines entre elles afin de nous éclairer sur la connaissance. Il en avait tiré une œuvre majeure, La méthode, dont les 6 tomes seront publié entre 1977 et 2004. Penseur indiscipliné, docteur honoris causa de 34 universités à travers le monde, Edgar Morin, de son vrai nom Edgar Naoum, s'était engagé en faveur des républicains dès 1936 lors de la guerre d'Espagne, et c'est dans la résistance, en 1942, qu'il avait choisi le pseudonyme de Morin. Chercheur au CNRS, il s'était intéressé dès les années 60 à des phénomènes sociologiques considérés alors comme mineurs, comme la rumeur d'Orléans ou la métamorphose de Plodémée, un des premiers essais d'ethnologie dans la société française contemporaine à travers un petit village breton. Il avait co-réalisé avec Jean Rouch le film Chronique d'un été, jetant les bases du cinéma vérité. Edgar Morin était un curieux de tout, des mésaventures des partis politiques en passant par la mondialisation, la laïcité ou le combat écologique.
Isabelle Chenu et Edgar Morin, dont vous entendiez la voix il y a quelques instants, il était encore l'invité de Pierre-Edouard Teldic et de l'émission Idée il y a quelques années sur RFI. C'est à réécouter en ligne et le portrait d'Edgar Morin est à lire sur RFI.fr.
L'actualité ce matin, c'est aussi le football, Julien, avec le grand jour pour le PSG et Arsenal.
Les tout récents champions de France et d'Angleterre s'affrontent en finale de la Ligue des Champions à Budapest, en Hongrie, où l'on vous retrouve tout de suite. Cédric de Oliveira, bonjour.
Bonjour Julien.
Le PSG est tenant du titre, il part favori, mais les Anglais ont des arguments, ils sont aussi ambitieux pour cette finale.
Oui, Arsenal qui n'a jamais remporté la Ligue des Champions pourtant, et le club londonien espère que cette finale pourra lui permettre de réparer cette anomalie. Les Gunners qui n'ont eu qu'une seule occasion, c'était il y a 20 ans. En 2006, c'était une autre époque. Il y avait Thierry Henry, Colo Touré ou encore Robert Pires qui s'était cassé les dents sur le Barça au Stade de France. Depuis, le club a bien changé. Il lui a fallu se reconstruire avant de regagner des titres. Et Arsenal a vécu cette libération il y a quelques semaines. Vous en avez parlé en remportant la première ligue, une première depuis 22 ans. Je vous dis libération parce que c'était une longue attente pour le club et tous les supporters. On les a longtemps associés à cette image de loser magnifique. c'est terminé. Et on a senti depuis dans les déclarations de Mikel Arteta, le coach des Gunners depuis plus de 6 ans, cette détermination de pouvoir signer une saison historique, de réaliser ce qu'aucune génération n'a réussi à faire, remporter la Ligue des Champions et donc de signer un authentique doublé. Arsenal qui devrait s'appuyer sur sa solidité défensive, 6 buts encaissés en 14 matchs de Ligue des Champions face à l'armada parisienne et sur quelques-uns de ses magiciens devant. On pense notamment à Bukayo Saka, l'enfant du club, et qui rêve d'apporter aux Gunners la première Ligue des Champions de son histoire.
Cédric De Oliveira, PSG Arsenal, la finale de Ligue des Champions tout à l'heure à Budapest. Édition spéciale à suivre tout au long du match sur RFI. Rendez-vous à partir de 15h50, temps universel.
Là, c'est un tout autre genre de match qui se jouera demain. Qui pour succéder à Gustavo Petro en Colombie?
Le premier président de gauche du pays cède sa place après 4 ans de mandat et demain, les Colombiens votent au premier tour de l'élection présidentielle. Le dauphin du président, le sénateur Ivan Cepeda, part favori du premier tour. Face à lui, deux concurrents se distinguent, la sénatrice de centre-droit Palma Valencia et un admirateur de Donald Trump et Javier Milei, l'avocat d'affaires d'extrême droite Abelardo de la Espriella. Le scrutin va se jouer notamment sur le bilan économique de la gauche, Claire Fage.
La politique sociale du gouvernement Petro a été coûteuse pour les finances publiques. La dette de la Colombie, déjà élevée au sortir du Covid, atteint plus de 58% du PIB. Mais le chômage est au plus bas depuis 25 ans et l'inflation maîtrisée. Le bilan économique du premier gouvernement de gauche de Colombie est donc loin d'être catastrophique, souligne Yann Basset, professeur de sciences politiques de l'Université du Rosario à Bogota.
Toute l'opposition disait que ça serait une catastrophe, que la Colombie allait finir comme le Venezuela, avec des crises d'hyperinflation, etc. Ce n'est pas le cas. La situation économique n'est pas brillante, mais enfin, elle est loin d'être catastrophique. Et l'économie colombienne a encaissé les réformes sociales du gouvernement, l'augmentation très importante du salaire minimum. C'est un bilan mitigé, on va dire, avec ce thème compliqué pour l'avenir de l'équilibre budgétaire à tenir pour le prochain gouvernement.
Le dauphin de Petro, Ivan Cepeda, promet de poursuivre cette politique sociale et les investissements dans les énergies renouvelables et l'agriculture pour sortir la Colombie de sa dépendance aux exportations de charbon et de pétrole. Ses rivaux priorisent au contraire à la fois le désendettement et la baisse des impôts. Abelardo de la Espriella promet même d'amputer de 40% le budget de l'État, mais aussi d'encourager les nouveaux investissements dans les énergies fossiles, y compris en autorisant la fracturation hydraulique.
Précision signée Claire Fage.
Dans l'actualité également, le cadre d'accord entre l'Iran et les États-Unis, toujours sur le bureau de Donald Trump.
La presse américaine évoquait hier matin ce texte qui prévoirait notamment la réouverture du détroit d'Ormuz lors d'une prolongation de 60 jours du cessez-le-feu, qui permettrait aussi d'engager des négociations sur le nucléaire iranien. Mais selon le New York Times, une réunion de 2 heures à la Maison-Blanche s'est terminée hier sans que le président ne tranche la question. Un responsable américain affirme qu'il ne signera le texte que si ses lignes rouges sont satisfaites. Donald Trump a de nouveau appelé hier à la destruction de l'uranium hautement enrichi par l'Iran. Téhéran fustige les demandes excessives des États-Unis. Le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, avertit de son côté les États-Unis, dit-il, sont plus que capables de relancer les hostilités contre l'Iran si nécessaire.
Et plutôt cette semaine, c'est le sultanat d'Oman que Donald Trump a invectivé.
Le pays, pourtant allié des États-Unis, pourtant médiateur dans de nombreux conflits régionaux, menacé par le président américain d'être pulvérisé. La violence des termes utilisés a poussé certains observateurs à se demander même si Donald Trump n'avait pas confondu Oman et l'Iran, mais son secrétaire au Trésor a enfoncé le clou jeudi soir. Scott Bessent a confirmé qu'Oman serait ciblé agressivement par des sanctions s'il aidait l'Iran à imposer des droits de passage dans le détroit d'Ormuz. Oman contrôle avec l'Iran cette route maritime stratégique et l'administration américaine lui reproche son ton trop conciliant à l'égard de Téhéran. Laurent Bonnefoy est chercheur au CNRS à Paris, spécialiste de la péninsule arabique.
De réaction officielle, il n'y en a pas eu encore, et je pense qu'il est difficile d'en avoir. Simplement, au-delà de la dimension choquante de l'affirmation, hein, j'ai vu un certain nombre de réactions qui tentaient d'expliquer finalement la position omanaise, donc des réactions non officielles qui expliquaient notamment qu'il était d'une part autorisé qu'un État impose des tarifs dès lors qu'il y avait une circulation dans ses eaux territoriales et dès lors que cette circulation imposait un certain nombre de choses, d'une part le développement d'infrastructures, d'autre part des mesures de protection. Et donc il y a une volonté de ne pas mener une escalade, mais pas non plus se plier au diktat de Trump.
Laurent Bonnefoy, joint par Guilhem Deltaï, et pour être complet sur l'actualité dans la région, un mot du Liban, malgré la réunion constructive saluée hier par Washington entre Israël et le Liban. La guerre continue, malgré le cessez-le-feu théorique en vigueur depuis la mi-avril. Plusieurs projectiles ont été tirés cette nuit depuis le pays du Cèdre en direction d'Israël. L'armée israélienne a, elle, avancé hier dans son invasion du pays en franchissant le fleuve Litani. Elle a poursuivi.
Cadre des jeudis juin. Principe Actif est mis à l'honneur pour la seconde année consécutive. 5 de vos émissions préférées et leurs animateurs s'emparent des platines le jeudi 4 juin à partir de 18h30 au Cube à Évreux pour une sélection musicale riche, variée, détonnante. Rejoignez-nous pour un moment partagé, convivial et festif. Le tout en totale gratuité. Bar et food sur site.
Toujours si seul, c'est triste.
Du nord au sud, de l'est à l'ouest.
L'hiver me tue, me prend, me blesse.
L'été j'encaisse, l'état s'engraisse.
Y a-t-il une vie après cette vie? Cette vie. Allongé par terre, seul sur le sol froid. Mon verre est posé pour la manche, mon dos, mes hanches rêvent d'un sofa. SDF, ma vie c'est un cauchemar. Du matin jusqu'au soir, me rabaisse et j'en ai marre. J'ai mal au cœur, la m'écœurée, l'alarme en sueur. Chaque heure qui passe, dure labeur et sans lueur. Il est trop tard pour avoir des espoirs. Sur chaque trottoir, espérer c'est le désespoir.
La foule m'ignore, pour elle je suis une gêne. Je trouve ça ignoble que son mépris soit de la haine. Ma pauvreté n'est pas un mirage, je suis l'otage de la misère et l'accepter c'est un miracle. Tous les jours mon quotidien fait du surplace, je peux le lire dans les regards, je peux le voir, je suis sur place. Je déménage que dans les faits divers, mais c'est fait éphémère, la mort me guette, les mois d'hiver. Toujours si seul, si triste, du nord au sud, de l'est à l'ouest, l'hiver me tue, on me blesse, et j'encaisse, sans caisse, après cette vie. Toujours si seul, si triste, du nord au sud, de l'est à l'ouest, l'hiver me tue, on me blesse, et j'encaisse, sans caisse, après cette vie. Sans domicile, mes nuits sont sous des cartons, sous les ponts, dans les halls de gare ou sous les balcons. Les gens s'insurgent et les passants m'insultent. Mon image se reflète, ils cherchent à fuir en étant brutes. On me rejette avec le jet de la méfiance. Celui qui dit j'ai rien du tout, comme attendu je fais la manche. Je suis victime d'une société qui va mal. J'en suis devenu le symbole, j'en suis détenu coupable. SDF, le peuple s'en fout. Du dernier soir où j'ai pris ma douche, je ne suis pas une star de foot. Mes émotions en deviennent anorexiques.
La perfusion de mes sentiments n'a plus d'horaire fixe.
Dans la chaleur d'un verre d'alcool, je me plonge dans l'ivresse.
Pour oublier un instant la laine amère de ma tristesse.
Toujours si seul,
si triste,
toujours si triste,
si seul,
du nord,
au sud,
de l'est,
à l'ouest.
Toujours si seul,
si triste,
du nord au sud,
de l'est à l'ouest,
l'hiver me tue,
le front me blesse,
et j'encaisse,
et ça s'enquête,
une vie,
après cette vie.
Toujours si seul,
si triste,
du nord au sud,
de l'est à l'ouest,
l'hiver me tue,
le front me blesse,
et j'encaisse,
et ça s'enquête,
une vie,
après cette vie.
Y a-t-il une vie après cette vie?
J'ai perdu toute confiance.
Y a-t-il une vie après cette vie?
En faillite est ma conscience.
Y a-t-il une vie après cette vie?
À l'usure d'or, c'est dur de fouiller les poubelles, de ramasser les ordures.
Y a-t-il vraiment la volonté de me réinsérer? Chaque année, on parle de moi. Seulement pendant 3 mois, on me fait croire que j'existe. On m'exhibe jusqu'à l'émoi. SDF.
J'en ai marre de la fatalité.
L'hiver me tue
et tes gens caissent.
Et on me parle d'humanité.
Les gens se taisent.
L'État s'engraisse.
Où est la moralité?
SDF. Politicien, si un jour tu te lèves au crépuscule et que tu vois une troisième,
te prends pas pour Hercule.
C'est ton ego qui t'en...